Ce matin, je vous propose de voir la grande occupation de nos vies. Et on voit cela dans le chapitre 6, versets 5 à 9, un texte relativement court, mais tellement riche d'enseignements. Je vous fais la lecture, Éphésiens, chapitre 6, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, et dans le ciel, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Comment est-ce que vous percevez votre travail? J'ai fait, pour préparer cette étude, regarder quelques statistiques. Une des statistiques qui m'a particulièrement plu, c'est celle des 65% des personnes qui croient que le travail est une source d'épanouissement. En fait, les 65%, ce sont des retraités. Alors, effectivement, quand on n'a plus de travail, quand on est au repos, on trouve ça tellement épanouissant. On a besoin néanmoins d'une réflexion sur le sujet du travail. On a besoin d'avoir une éthique biblique du travail. D'abord parce que la plupart d'entre nous passons entre 8 et 10 heures de nos 16 heures quotidiennes d'éveil sur notre lieu de travail. De telle manière que notre façon de travailler non seulement révèle et détermine ce que nous sommes, parce que c'est de ça qu'on parle. Mais qui dis-toi, moi je suis un électricien, moi je suis un peintre, moi je suis un pasteur, moi je suis un informaticien. Et parfois la première chose qui nous vient en tête quand on se présente, c'est notre métier, parce que ça occupe tellement de temps dans notre vie. Et ensuite parce que notre activité professionnelle se trouve être une source de maux inépuisables. Le travail nous rend souvent irritables. Son absence nous frustre terriblement. Il nous éloigne de notre maison, il génère tellement de stress. Ce qui pourrait nous laisser penser que le travail est une malédiction. Alors, quelle est la perspective divine du travail? Ce matin, je vous propose de voir une évaluation de notre travail et ce qu'en pense la Bible. Dieu dit que notre travail est digne. Le travail est digne. Le travail n'est pas une malédiction. En Genèse chapitre 2, on voit que le Seigneur lui-même, après avoir travaillé 6 jours, se repose le 7e. Ça nous montre que notre Dieu est un travailleur. Et de ce fait, parce qu'il est un travailleur, ça fait que tout travail légitime, toute occupation légitime, reçoit une dignité intrinsèquement. De plus, en Genèse chapitre 1, versets 27 et 28, il est dit que Dieu nous a créés à son image. Il est travailleur et il nous a créés à son image, ce qui fait que nous sommes naturellement des travailleurs. Il nous a créés pour travailler. D'ailleurs, avant la chute, l'homme travaillait déjà. Au chapitre 2, verset 15, l'homme est placé dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Verset 19, il doit nommer aussi tous les animaux de la terre, qui est un travail colossal. La création travaille. Considérez les fourmis. Les proverbes nous invitent à regarder les fourmis travailler et tirer le son pour nos propres vies. Regardez les abeilles, regardez les oiseaux, regardez les araignées. Parlez des gars, parce que ça me fait peur. Les araignées travaillent constamment à leur toile. Regardez les chevaux. La différence entre une abeille et un homme, au travail. Elle est telle. Et l'abeille, elle travaille instinctivement. Elle fait son travail instinctivement et elle le fait à la perfection, alors qu'un homme est moralement conscient et il fait des choix dans son travail. Et ces choix sont basés sur sa volonté ou non de glorifier Dieu. Et donc on se rend compte que là, dans le travail, on a toujours cette possibilité de glorifier ou pas notre Seigneur. Alors comment la chute a-t-elle affecté notre travail? La chute a entraîné une pénibilité du travail. Ça, c'est ce qu'on a vu au chapitre 3 de la Genèse. Il y a des épines. Il y a des ronces. Enfin, juste un collègue, un petit peu piquant, occupe le bureau d'à côté. Parfois, c'est le travail lui-même qui est difficile. Mais surtout, la chute a perverti notre rapport au travail. On est soit paresseux et contestataire lorsqu'on est un employé, ou profiteur et oppresseur lorsque l'on est un patron. Dans notre texte, il dit ici au verset 5, serviteur. Le mot qui est employé, c'est en grec, c'est doulos. Il est employé également au verset 8, mais il est traduit esclave. Donc dans la pensée ici, c'est esclave et maître. Waouh, on dit, mais la Bible alors, elle ne condamne pas l'esclavage ou comme ça. Alors, à l'époque biblique, l'esclavage est commun. Les hommes en abusent déjà depuis la chute. On achète des esclaves, on les vend, on les échange, on les utilise, et puis on s'en débarrasse comme des outils. Et si la Bible n'attaque pas l'esclavage lui-même, elle attaque directement le fait d'enlever quelqu'un pour en faire un esclave. Exode chapitre 20 et 1, verset 16. Si la traite des esclaves en Europe et en Amérique, jusqu'au milieu du 19e siècle, violait clairement les Écritures, malgré le fait que même certains chrétiens ont bénéficié et cela même tenté de rationaliser la chose. Certaines formes d'esclavage non violentes étaient permises dans l'Ancien Testament. Par exemple, un voleur qui ne pouvait pas faire restitution pouvait être forcé à servir jusqu'à ce qu'il ait dédommagé du tort qu'il avait fait. Et c'est une façon certainement meilleure que la condamnation moderne à la prison qui ne prévoit aucune restitution pour celui qui a été la victime et puis ni de restitution de dignité au coupable. On devait, dans les Écritures, traiter les esclaves comme des domestiques en réalité. On ne pouvait pas les maltraiter. Si leur maître les blessait, il devait les libérer. On devait donner asile et protection à un esclave qui avait un maître brutal et qui s'était sauvé. On devait l'accueillir et puis le défendre. On ne pouvait pas garder esclave à un compatriote israélite au-delà de 6 ans. L'année du Jubilé, 50e année, tous les esclaves étaient libres. Un esclave, donc, pouvait être libéré, mais il pouvait aussi dire, mais moi j'aime mon maître. Moi j'aime mon maître. Et je voudrais travailler pour lui. Alors le maître le conduisait sur le bord d'une porte là et lui perçait l'oreille, lui mettait un anneau. Puis ça signifiait, voilà maintenant, si vous, ceux qui ont des boucles d'oreilles, vous savez maintenant que vous êtes engagé à servir un maître tous les jours de votre vie et le faire joyeusement. Donc la Bible prévoyait des relations employé-employeur, mutuellement enrichissante et profitable. On a des exemples dans les Écritures, par celui de Joseph, qui est vendu comme esclave dans la maison de Potiphar, et qui prospère. Et en fait, on voit bien que Joseph serait resté là toute sa vie, dans cette maison, avant que, sauf si cette femme, la femme de Potiphar, ne l'avait pas voulu agresser. En fait, on trouve aussi tout un tas de passages dans les Écritures où on voit des maîtres. J'aime ce maître en Luc chapitre 7, je vous lis juste quelques versets. En Luc chapitre 7, verset 2, il dit « Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus, ils lui adressèrent d'instants de supplication, disant « Il mérite que tu accordes cela, car il aime notre relation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, il était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. C'est pour cela que je ne me suis pas plus digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à mes supérieurs, j'ai aussi des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre vient, et il vient. Et à mon serviteur fait cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Voilà un bel exemple d'une relation maître-serviteur, un maître qui aime tellement son serviteur, qui il est en peine de sa maladie. Il fait tout pour qu'il soit ramené à la vie. Et on peut imaginer la reconnaissance du serviteur d'avoir un tel maître. Donc votre travail est la grande occupation de votre vie. Elle est voulue par Dieu et de ce fait, c'est l'endroit où vous pouvez glorifier Dieu. C'est l'endroit où vous pouvez glorifier Dieu. Le travail n'est pas une malédiction. Le travail, prenez-le dans le sens le plus large, hein, pas simplement le contrat CDI, mais toute activité vous permet de glorifier Dieu, vous permet de pourvoir à vos besoins, vous permet de pourvoir aux besoins des autres. Et puis aussi le travail vous met en contact avec d'autres, ce qui vous permet de jeter un pont pour l'annonce de l'Évangile dans votre travail. Si vous comprenez que c'est la volonté de Dieu, alors le boulot que vous faites, et qui n'est peut-être pas valorisé par les hommes, vous pouvez être sûr qu'il est valorisé par Dieu. C'est ainsi qu'une ménagère qui peinait avec la vaisselle a mis une petite affiche au-dessus de son évier. Service divin accompli ici 3 fois par jour. Se rappeler combien elle pouvait servir le Seigneur dans ces choses, également en lui faisant de bon cœur. Oui, le travail, c'est aussi ce qui peut nous apporter beaucoup de repos. On dort bien quand on a bien travaillé, ceux qui étaient à la journée de travail hier, de travaux hier, ceux qui ont fait le vide-grenier, qui ont transporté tellement de marchandises de là. On vient dormir cette nuit. Le travail fait bien dormir. La Bible dit aussi, c'était Ecclésiastes 5:11, Proverbe 12:27 dit, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Et Martin Luther, le réformateur, a écrit, votre travail est une chose très sainte, qui plaît à Dieu, et par laquelle il désire répandre sur vous ses bénédictions. Cet éloge du travail devrait être inscrit sur chacun de vos outils, sur votre front et sur vos visages en sueur, vous qui trimez dur. Pensez à cela. Le travail est une chose très sainte et qui plaît à Dieu. Et puis, votre travail, c'est ce que je voulais voir là, votre mission au travail. Quand vous pensez à votre travail en tant que chrétien, pensez-y comme votre mission. Et voilà précisément votre mission au travail. Travailler. Travail, travailler. Le bulletin de ce mois-ci touche à un point intéressant, à savoir le culte. Et on a souvent séparé le sacré du profane, le dimanche du reste de la semaine. Le Nouveau Testament ne nous autorise pas à faire une telle distinction. Le culte, selon le Nouveau Testament, ne désigne pas en premier lieu un moment de louange le dimanche matin lorsque l'Église est rassemblée. Vous voyez à quoi je fais allusion. Mais il correspond à la réalité quotidienne d'une vie transformée par l'Évangile. Romains chapitre 12, versets 1 et 2 dit « Je vous exhorte, mon frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est toute votre vie le culte. Une vie offerte à Dieu, c'est votre culte offert à Dieu. Et donc, le dimanche matin, nous nous encourageons réciproquement à faire de notre vie entière un culte à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que mon culte, c'est de louer Dieu par mes chants, par la prédication de la parole et la prière le dimanche, mais c'est aussi de le louer en jouant avec mes enfants. C'est de le louer en prenant du bon temps avec mon épouse. C'est de le louer en entretenant ma maison. C'est de le louer en aidant mon voisin. Et c'est de le louer, bien entendu, en travaillant à mon travail. Je célèbre mon Dieu dans la vie, à la maison ou sur mon lieu de travail, non pas en chantant les cantiques d'esprit et vérité de tout mon cœur, mais en travaillant avec zèle et application. Alors peut-être vous avez un travail qui vous permet de chanter toute la journée des cantiques, hein. Faites-le. Mais tous les travails ne permettent pas de chanter des cantiques toute la journée. Travaillez non pas en prêchant et proclamant du message de dimanche dernier à votre collègue, mais en accomplissant fidèlement la tâche à qui vous a été confiée. Écoutez ça. Votre mission au travail n'est pas de prêcher l'Évangile. Votre mission au travail n'est pas de prêcher l'Évangile, mais d'accomplir votre travail d'une manière évangélique, ce qui contribue grandement à la propagation de l'Évangile. On dit souvent, pour illustrer ça, on dit souvent à mon épouse qu'elle doit avoir de nombreuses occasions d'annoncer l'Évangile dans son travail, puisqu'elle travaille avec des personnes en famille qui vont mourir. J'ai autant d'occasions que toi dans ton travail. Les gens n'ont pas besoin d'entendre l'Évangile juste avant de mourir. Les gens ont besoin d'entendre l'Évangile pendant toute leur vie. Les gens ne sont pas particulièrement disposés à accueillir l'Évangile la veille de leur mort, pas plus qu'ils ne l'étaient un an plus tôt ou 10 ans plus tôt. Ils ont besoin d'entendre l'Évangile tous les jours et de le voir vivre dans la vie de leurs collègues de travail tous les jours. Ça veut dire qu'elle ne profite pas de la faiblesse des gens qui sont perfusés, qui ont le masque à oxygène et qui ne peuvent pas répondre pour leur annoncer l'Évangile. Les forcer à entendre l'Évangile. Non, c'est pas ça son travail. D'ailleurs, elle n'a pas été embauchée comme aumônière à des hôpitaux de Toulouse, mais comme médecin. Il y a une distinction dans la tâche. Par contre, c'est dans la mesure qu'elle accomplit ce travail médecin, avec le zèle, l'application, l'assiduité et la fidélité, qu'elle rend témoignage à Dieu son Sauveur et à la puissance de son Évangile. Bien entendu, elle va s'efforcer de saisir les occasions de témoigner de sa foi lorsque le Seigneur prépare une présentation. Et elle doit s'en saisir, comme vous tous, comme nous tous. Mais elle n'est pas embauchée pour cela. J'ai travaillé dans une société de boulangerie-pâtisserie industrielle. Déjeuner aux croissants et aux chocolatines. chance, j'ai pas mal perdu en devenant pasteur, mais c'est sans regret, c'est sans regret. Et donc, pendant les périodes de Ramadan, il y avait un certain nombre d'employés qui étaient musulmans, qui prenaient des cartons, qui les posaient en direction de la Mecque, et qui commençaient à prier. Il faut comprendre que pendant Ramadan, où il fallait jeûner, ils avaient besoin de prière quand ils voyaient passer les croissants. Néanmoins, ils n'étaient pas priés pour faire leur prière. Donc, leur chef leur disait, si tu veux prier, tu prends une pause. Tu vas pointer une pause. Mais on ne t'est pas payé pour prier.
Le patron peut dire, mais je pensais que l'évangile
seulement, aussi diligent dans son travail d'avant, il comprend que l'Évangile ne peut pas transformer une vie. Vous comprenez la puissance de notre vie au travail? C'est quand on a un témoignage au travail, ça bouleverse, ça fait honorer Dieu et ça fait honorer la doctrine de Dieu, l'Évangile. Regardez dans votre travail. Est-ce que vous êtes en mesure d'inviter vos collègues à venir à l'église? Vous pouvez le faire si vous avez un bon témoignage. Mais si votre témoignage est nul, si vous êtes sans cesse à vous plaindre, vous n'allez même pas les inviter, pourquoi? Parce que vos collègues ne sont même pas intéressés. Par contre, si, quelles que soient les difficultés que vous avez, vous continuez à persévérer aussi. Vous continuez à le faire avec application. Avec zèle. Pour le Seigneur. Et bien, vous faites honorer la doctrine de Dieu. Enfin, votre disposition au travail. Tout notre texte nous parle de vivre à notre travail comme pour le Seigneur. Il fait référence constamment à cette relation pour déterminer quelle doit être notre disposition de cœur à notre travail. Au verset 5, il dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, comme à Christ, verset 6, comme des serviteurs de Christ, verset 7, comme servant le Seigneur. » La barre est haute, n'est-ce pas? Obéir à mon patron, à mes supérieurs, comme au Seigneur. Ça, c'est une réelle difficulté, n'est-ce pas? On a déjà tellement de mal à obéir à Christ, le meilleur des maîtres. Alors, obéir à des hommes comme à Christ, c'est vraiment difficile. Et si, en plus, ces hommes ont des caractères difficiles, alors ça devient impossible. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a introduit cette section de cette épître en Éphésiens avec le verset, chapitre 5, verset 18. Il dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Si vous devez être de bons ouvriers, de bons serviteurs, vous avez nécessairement besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir le faire. Non parce qu'il nous est demandé d'obéir à nos employés, non pas simplement à ceux qui sont sympas, à ceux qui sont justes, mais même à ceux qui sont d'un caractère difficile. On n'est pas porté à écouter le témoignage d'un chrétien qui fait un travail mauvais, bâclé, qui se plaint tout le temps. Si un chrétien trouve la situation intolérable dans son emploi, il devrait, je crois, en chercher un autre. Certains chrétiens peuvent même penser que s'ils travaillent pour un autre chrétien, alors ça c'est idéal, hein. Moi j'ai un collègue qui est extraordinaire. Et puis j'ai un patron super exigeant. Mais parfois on peut se dire, ah ouais, mais moi je travaille pour un chrétien. C'est pas grave s'il n'est pas un bon témoignage, hein, parce que il est déjà chrétien. Vous dites, attends, les frères quand même, pour l'augmentation que nous on fait. C'est parce que la Bible dit, regardez, 1 Timothée chapitre 6, toujours, verset 2, il dit, et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent. D'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Voilà, c'est fait. Alors, comment est-ce qu'on doit servir dans notre emploi? Eh bien, vous voyez la manière dont Paul en parle. Il dit ici « avec crainte et tremblement ». Ici, il dit, respectez l'autorité. Vous avez un supérieur, respectez-le. parce qu'il y a un principe de soumission dans les Écritures, et ce principe, il est divin. Et rappelez-vous qu'au sein même de la Trinité, eh bien, le Christ est soumis au Père. Il n'y a pas d'infériorité en valeur. Vous ne valez pas moins que votre patron. Non. Il dit en Galates, il n'y a plus esclave, il n'y a plus homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. D'ailleurs, il arrive aujourd'hui, comme du temps des autres Paul, qu'un maître chrétien soit soumis à une autorité, à son esclave, au sein de l'Église. L'Évangile a touché pas mal d'esclaves. Les esclaves se sont donnés à Christ, ils sont devenus anciens dans l'Église, et puis le patron a été touché parce que justement il y avait un bon esclave. Il est venu à l'Église, et là il n'était plus le patron. Il était soumis aux anciens, et peut-être à son esclave. Vous voyez la chose. Dieu ne. Il n'y a pas un problème de valeur ici. Et puis il dit encore dans la simplicité de votre cœur, c'est-à-dire sans hypocrisie, sans arrière-pensée, sans calcul. Vous savez, parfois on peut être tellement, tellement bien fidèle et obéissant parce qu'on a maintenant, il y a les évaluations annuelles. Ce mois-ci, il faut montrer mon visage. Non. Pas seulement sous leurs yeux, verset 6. C'est le comportement qui nous est naturel. Donc le patron est là, tout le monde s'active, parce que tout le monde veut montrer qu'il a une place essentielle dans la vie de l'entreprise. Quand le patron s'en va, on souffle. Et comme ça, le PDG est sorti de la société, et puis un employé voit un autre qui était en train de s'affairer encore. Et il passe la tête dans le bureau et puis il dit c'est bon, le patron est parti. Et puis lui, il lui dit chut, le mien est encore là. Et puis il a aussi travaillé pour le Seigneur, comme pour le Seigneur. Et puis, avec empressement, il dit merci. Avec zèle, enthousiasme, pas comme assurant le service minimum. Et Paul ajoute une raison supplémentaire au verset 8, il dit, sachant que chacun, son esclave, son libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et là, vous pouvez penser à ce verset-là, je trouve ça particulièrement encourageant. Parce que parfois vous faites bien, et puis le patron s'en moque. Et puis parfois vous faites bien, et puis il ne le voit pas du tout. Et puis parfois vous faites bien, mais ils pensent que c'est l'autre, votre collègue, qui a bien fait. C'est dur ça. Et il dit, mais vous recevrez votre récompense. Dieu voit tout, il voit tout ce que l'on fait en son nom et pour sa gloire, et il ne nous oublie pas. Et puis, enfin, un dernier mot à l'attention des patrons, c'est le verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de frappe. Il est dit ici, agissez de même. Agissez de même. L'idée d'agir de même, c'est agissez aussi de bon cœur. Pour la volonté, en faisant la volonté du Seigneur. C'est-à-dire, traiter vos employés, vos subalternes, avec justice et respect. Pensez à leur intérêt et à leur bien-être, en plus de ceux de vos affaires. Ils s'abstiennent de menaces. J'ai rencontré un patron avant-hier. Et il m'a dit, moi je projette. Il est un cadre commercial dans une grosse boîte, et puis à 40 ans, il n'a pouvait plus quitter Paris et il s'installait chez lui. Et il dit, moi j'ai voulu changer cette mentalité au travail. Il dit maintenant, je cherche le collaborateur qui va avoir du respect pour le client, qui vont avoir du respect les uns envers les autres, qui vont être appliqués dans le travail. Et lui, patron, me dit, pour moi, la priorité, ça n'est pas l'argent. Je vais vous faire un devis. Mais ça n'est pas l'argent. Et je crois bien. Et j'ai déjà remarqué, parce que j'avais déjà eu sa secrétaire au téléphone plusieurs reprises, je vois qu'il y a un respect dans l'entreprise, qu'ils tiennent leur parole. Et ils vont vous rappeler, ils vous rappellent vraiment. C'est pas une formule. Quand ils viennent, ils viennent. Quand ils font le travail, ils le font, ils le font bien. Et il a réussi à transmettre ça dans toute sa société. Il dit, je cherche encore un collaborateur, mais je n'ai pas encore trouvé à cause du caractère. Les compétences, il y en a qui veulent qu'ils les ont. Et je veux qu'ils comprennent l'esprit qu'il y a dans notre société. Moi, je trouve ça remarquable. Il dit ici que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne juge pas en fonction de vos diplômes, de votre fiche de paye, de votre catégorie socio-professionnelle. Comme il va remplir tous ces trucs-là, les dossiers administratifs, il y a toujours la catégorie socio-professionnelle. Je veux dire que vous penserez avant la prochaine fois, parce qu'il n'y a jamais pasteur ou quelque chose comme ça. Dans quel cas, dans mon dossier, c'est très très compliqué. Alors il y a cadre supérieur, il y a cadre de la fonction publique, il y a agriculteur, ouvrier spécialisé, il y a profession libérale. Mais Dieu ne nous regarde pas comme dans une catégorie socio-professionnelle. Dieu nous regarde à la manière dont on fait notre travail. Que l'on soit un ouvrier spécialisé, que l'on soit un PDG, un dirigeant multinational. Ça signifie que vous ne serez pas moins récompensé en faisant votre travail dans la plénitude du Saint-Esprit que moi en préparant mes messages. Dieu vous demande à vous et à moi la même plénitude de l'Esprit, la même application de votre travail. Maintenant, un mot à ceux qui sont au chômage. Je termine avec ça. Donc, je pense que le chômage, les périodes sans emploi, sont les périodes les plus difficiles, justement, parce qu'il y a une dignité au travail. Et une perte d'activité, ça porte atteinte à notre dignité d'homme. Et donc, je voudrais que vous preniez courage dans vos recherches, parce que Dieu veut vous travailler aussi. Il est avec vous, il est à vos côtés. Il sait ce dont vous avez besoin, il vous le donnera. Soyez actifs non seulement dans vos recherches, mais soyez actifs aussi dans le temps justement que vous êtes donné. Faites des choses, accomplissez une œuvre. Et puis souvenez-vous que ce n'est pas notre travail qui nous sauve, mais que c'est le travail de Jésus-Christ qui nous sauve. Ce n'est pas votre travail qui nous sauve, mais c'est le travail de Christ. Il dit dans le prophète Ésaïe, chapitre 53, il dit, à cause du travail de son âme. Ça, c'est la grandeur de Jésus-Christ. À cause du travail de son âme, il nous a rachetés. Il nous a sauvés à cause de son travail, à cause de sa grande œuvre accomplie à la croix. C'est là qu'il nous a obtenu une dignité totale. C'est là qu'il nous offre un plein pardon. C'est là qu'il nous offre le repos éternel dans sa présence. C'est là qu'il nous a acquis la faveur de Dieu. La faveur de Dieu ne vous est pas acquise parce que vous êtes un super travailleur, mais parce que Jésus-Christ a accompli la grandeur qu'il faut. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne du zèle pour demain, du courage pour accomplir votre tâche fidèlement, recevant ce ce ministère d'être un chrétien au travail de la part d'un si grand, d'un si précieux maître. Que Dieu vous bénisse.